VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous. Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 21 septembre 2017. John Lydon et Anne Albertson en direct du studio 13 de VOA Afrique à Washington. À la une ce matin.
Rencontre au sommet entre le président Donald Trump et des leaders africains. C'était hier, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.
Africa has tremendous business potential. I have so many friends going to your countries trying to get rich. Six of the world's 10 fastest growing economies are in Africa.
Le FMI est disposé à soutenir le Congo, assurance de Christine Lagarde au haut président Denis Sassou Nguesso lors d'une rencontre à New York.
Violence en République démocratique du Congo. Washington et Bruxelles épinglent les forces armées congolaises.
En Libye, une nouvelle constitution devrait être soumise à référendum d'ici un an.
Et puis nous retrouverons Nicolas Pineau pour les sports et Pascal Serra pour la Minute Éco.
Mais tout d'abord, le journal.
Le président Donald Trump a rencontré hier à New York certains leaders africains en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'exécutif américain a promis de dépêcher bientôt sur le continent son ambassadrice à l'ONU. Le point avec Timothée Donangmaï.
Au chef d'État et de gouvernement africain qu'il avait convié à un déjeuner, le président Trump n'a pas caché son inquiétude concernant les troubles dans certains pays d'Afrique. Nous suivons de près la situation et nous sommes profondément troublés par les violences au Soudan du Sud et au Congo, a dit M. Trump, ajoutant « Des millions de vies sont menacées et nous continuons de fournir l'aide humanitaire, mais les vrais moyens d'arrêter cette catastrophe sont une force de maintien de la paix sous commandement africain et un sincère engagement de toutes les parties concernées. » Sur une note plus optimiste, le président Trump a félicité les leaders africains pour la rapidité de la croissance économique dans plusieurs régions du continent. L'Afrique a un formidable potentiel d'affaires. J'ai tant d'amis qui tentent de faire fortune dans vos pays. Ils y dépensent beaucoup d'argent. C'est un formidable potentiel d'affaires qui représente d'immenses marchés pour les entreprises américaines, a déclaré le président Trump en soulignant que 6 des 10 économies les plus dynamiques au monde se trouvent en Afrique.
6 of the world's 10 fastest growing economies are in Africa.
Les États-Unis et l'Union européenne ont interpellé l'armée de la RDC pour usage excessif ou disproportionné de la force. Washington et Bruxelles pointent du doigt les forces armées congolaises après la mort d'une trentaine de réfugiés burundais dans l'est de la République démocratique du Congo. Eddie Isango.
Les États-Unis demandent instamment aux forces de sécurité de la RDC de s'abstenir d'un usage excessif de la force. Le gouvernement américain est consterné par la violence et la mort de plus de 30 ressortissants burundais et d'un soldat congolais à Kamanyola, indique un communiqué du département d'État américain. Washington appelle Kinshasa à travailler avec le bureau du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies et les casques bleus des Nations Unies pour apaiser les tensions entre les réfugiés burundais et leur population d'accueil. L'Union européenne condamne elle aussi les recours à la force de façon disproportionnée de l'armée de la RDC et lui demande de respecter les standards internationaux. L'Union européenne exige une enquête et des poursuites contre les responsables. Vendredi à Kamanyola, dans le sud Kivu, les forces armées de la RDC ont voulu disperser une manifestation des réfugiés burundais, mais ont été débordés et ont ouvert le feu. Au moins 36 réfugiés ont été tués et un militaire a aussi perdu la vie.
Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier à Conakry, en Guinée, à l'appel de l'opposition pour exiger l'organisation d'élections locales qui n'ont plus lieu depuis 12 ans. L'opposition a par ailleurs apporté son soutien aux habitants de Boké qui protestent contre l'absence d'électricité. Malgré la richesse de son sous-sol en bauxite, or, diamants et minerais de fer, plus de la moitié de la population de la Guinée vit sous le seuil de pauvreté avec moins d'un euro par jour selon l'ONU.
La police ougandaise a interdit une manifestation prévue aujourd'hui au moment où le parti au pouvoir s'apprête à déposer un amendement constitutionnel sur la limite d'âge pour être élu président. considéré par l'opposition comme une tentative de faire élire en 2021 le président Yoweri Museveni, 73 ans, pour un sixième mandat. Cet amendement, qui devrait être déposé ce jeudi au Parlement, modifie une clause de la Constitution selon laquelle le président doit avoir entre 35 et 75 ans.
Une embuscade dans le nord du Mali a coûté la vie à un militaire malien. Deux camps militaires, dont un de l'ONU, ont également été attaqués. Des détails avec Ekia Badou.
L'armée malienne n'a pas donné plus de détails. Elle indique qu'une unité de ses soldats est tombée dans une embuscade à 55 km de Menaka, dans le nord du pays. Leur véhicule est passé sur une mine. Cette attaque a fait un mort et des blessés. Par ailleurs, des hommes armés ont visé à Kidal, dans le nord-est, un camp de la mission de l'ONU, la MINUSMA, et celui du mécanisme opérationnel de coordination, MOC. Celui-ci est destiné à accueillir les groupes armés devant participer aux futures patrouilles mixtes. Elles doivent en principe être constituées de soldats de l'armée régulière, de combattants, de groupes pro-gouvernementaux, notamment la plateforme, et de ceux de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, l'ex-rébellion à dominante Touareg du nord du Mali. Les forces maliennes et étrangères sont régulièrement la cible d'attaques, malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes. Son application enregistre d'importants retards.
Le président soudanais Omar el-Béchir a pressé hier les habitants du Darfour, région en proie à un conflit meurtrier depuis des années, de rendre leurs armes volontairement. Très bientôt, nous viendrons et nous prendrons les armes qui ne sont pas remises volontairement, a-t-il mis en garde. Le président soudanais est recherché par la Cour pénale internationale basée à La Haye pour répondre d'accusations de génocide et de crimes de guerre au Darfour.
L'émissaire de l'ONU, Hassan Salameh, a présenté hier sa feuille de route pour la Libye. Elle contient plusieurs étapes institutionnelles avant des élections générales pour redonner un avenir aux Libyens. Le point avec Eric Manirakidza.
D'après le plan d'action onusien, une nouvelle constitution devrait être soumise à référendum d'ici un an. Elle ouvrirait ainsi la voie à des élections générales dans le pays. L'émissaire de l'ONU a toutefois indiqué que les accords de Skhirat, signés fin 2015, restaient le seul cadre valable. Ces accords ont abouti à l'installation à Tripoli d'un gouvernement reconnu internationalement. Hassan Salameh a annoncé qu'il réunirait prochainement un comité chargé de les modifier, conformément à un large consensus dégagé pour les amender. Il a aussi annoncé l'organisation aux Nations Unies d'une conférence nationale pour intégrer tous les acteurs ostracisés ou marginalisés sur l'échiquier libyen. Une dizaine de dirigeants des pays impliqués directement ou indirectement dans le casse-tête libyen participaient à la rencontre. En première ligne, les Européens, en raison de la crise migratoire et de la menace terroriste, le Français Emmanuel Macron, le président du Conseil italien Paolo Gentiloni et la première ministre britannique Theresa May. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui soutient l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Haftar, était également présent, de même que le chef du gouvernement d'entente nationale GNA, Fayez al-Sarraj.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Iran refuse de renégocier l'accord nucléaire de 2015 et réagira avec détermination si Donald Trump devait le dénoncer, a prévenu Hassan Rouhani devant l'ONU au lendemain d'un virulent discours du président américain. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, qui préside la commission du suivi, a souligné à l'issue de la rencontre des signataires de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien que tous les participants étaient tombés d'accord pour juger que le texte est jusqu'ici respecté par tous.
Les États-Unis sont fermement opposés au référendum d'indépendance du Kurdistan prévu le 25 septembre. C'est ce qu'a réaffirmé hier le département d'État en demandant au président kurde d'y renoncer. Israël, pourtant très proche allié des États-Unis, est le seul pays à s'être prononcé publiquement pour un État kurde indépendant au nom des bonnes relations entre Kurdes et Juifs et, selon des experts, dans l'espoir d'endiguer l'influence de l'Iran et de l'islam radical.
Le président palestinien Mahmoud Abbas a demandé devant l'ONU la fin de l'apartheid imposée selon lui par Israël aux Palestiniens afin de préserver la solution à deux États.
Ici à Washington, le procureur spécial Robert Mueller, chargé d'enquêter sur les actions de la Russie pendant la dernière campagne présidentielle américaine, a demandé à la Maison-Blanche de produire des documents relatifs au mandat actuel de Donald Trump, selon le New York Times dans son édition d'hier. Le procureur spécial s'intéresse en particulier aux circonstances ayant conduit au limogeage de certains membres de l'administration.
Une grande manifestation des militants indépendantistes à Barcelone s'est peu à peu dispersée dans la nuit de mercredi à jeudi après d'importantes mobilisations contre les opérations policières visant à empêcher la tenue en Catalogne d'un référendum d'autodétermination interdit. L'exécutif catalan, dirigé par des séparatistes, est décidé à organiser coûte que coûte un référendum d'autodétermination le 1er octobre en dépit de son interdiction par la Cour constitutionnelle.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
À présent, c'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce matin par Pascal Serra.
Le Togo est devenu l'un des plus importants clients du Nigeria avec 999 000 barils importés en avril et 6,7 millions de barils achetés en mai, selon un rapport retraçant les exportations nigériennes de pétrole entre janvier et mai 2017. Pour le Togo, cette hausse des importations s'explique par l'importance de plus en plus marquée du pays comme point de transit sous-régional. Au Ghana, le ministre du Développement des entreprises, Mohamed Awal, a révélé un investissement à hauteur de 100 millions de dollars pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Il a exhorté les jeunes entrepreneurs à identifier de nouveaux secteurs, des filières et des opportunités d'affaires plus innovantes. La Banque mondiale a approuvé un prêt de 200 millions de dollars de l'Association internationale de développement en faveur du Kenya. Ce soutien financier est essentiellement destiné à l'amélioration de l'apprentissage dans les écoles primaires et secondaires kenyanes. 1,2 million de bénéficiaires sont concernés. La Banque Société Générale a présenté une nouvelle application mobile bancaire appelée Yop, destinée au marché africain, offrant divers services de paiement et de transfert d'argent sans compte bancaire. Cette application a déjà été déployée en Côte d'Ivoire et au Sénégal et doit être lancée d'ici la fin de l'année au Ghana, au Cameroun, au Burkina Faso et au Togo, avant d'être étendue à tout le réseau Société Générale sur le continent africain.
Une musique qui ne trompe pas, nous sommes là en sport et c'est avec Nicolas Pinault, bonjour.
Bonjour John, bonjour à tous.
Nicolas, on va commencer par le football, demi-finale de la Coupe de l'UEFA.
Et oui, les demi-finales qui auront lieu à Cape Coast, au Ghana. Le Bénin affrontera le Nigeria à 15h, temps universel, et le Ghana, pays organisateur, face au Niger à 18h, temps universel.
Aliou Cissé dévoile sa liste pour les éliminatoires du Mondial 2018.
En effet, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, opte pour le changement dans la continuité, sans bouleverser la composition de sa liste. Le coach des Lions de la Teranga a convoqué 3 joueurs pour la première fois en vue de la rencontre face au Cap-Vert le 7 octobre prochain. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, il s'agit du gardien Alfred Gomis, mais aussi et surtout du latéral défenseur Youssouf Sabali et de l'attaquant Mbanyang.
Et puis Nicolas, le Real chute malgré le retour de Ronaldo.
Le Real qui avait marqué lors de ses 73 derniers matchs n'a pas trouvé la faille contre le Betis Séville. Une défaite à Santiago Bernabéu, 1-0. Malgré la fin de la suspension de CR7, cela n'a rien fait. Les Madrilènes, après 5 journées, comptent déjà 7 points de retard sur le leader barcelonais. À noter que le FC Séville a battu Las Palmas 1-0.
Dortmund, lui, a récupéré sa place de leader en Allemagne.
Et oui, en s'imposant sur la pelouse de Hambourg lors de la 5e journée de la Bundesliga, 3-0, le Borussia Dortmund a repris sa place de leader. Hoffenheim, renversant à Mayence, victoire 3-2, grimpe sur le podium.
Et on joue également en Italie, Nicolas.
Naples conserve la tête de la Serie A après sa victoire 4-1 face à la Lazio de Rome. C'était hier soir. La Juventus Turin a fait le nécessaire pour battre la Fiorentina 1-0 et suit le rythme des hommes de Sarri.
Les favoris pas surpris lors du 3e tour de la Ligue Cup en Angleterre.
Chelsea, Arsenal, Everton, Manchester City et Manchester United se sont tous qualifiés pour le 4e tour de la Ligue Cup. Sans Morata, Pedro Kanté, Alonso, Moses ou encore Courtois, Chelsea s'est promené contre Nottingham Forest. Victoire 5-1. Et puis Arsenal l'a emporté sur la plus petite des marges, 1-0 face à Doncaster. Malgré une équipe mixte, Manchester United a fait honneur à son rang de tenant du titre en battant l'équipe bis de Burton, 4-1. Et puis le vainqueur 2014 et 2016, Manchester City, sera au quatrième tour également pour la cinquième année de suite. Les hommes de Pep Guardiola ont eu chaud contre West Bromwich Albion, victoire 2-1. Ils ont pu compter sur un très bon Leroy Sané. À noter que Yaya Touré a disputé son 300e match pour Manchester City hier soir.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui présenté par John Lyndon. Place à présent au dossier du jour et on commence par la RDC. La journée internationale de la paix se célèbre ce jeudi 21 septembre dans le monde entier sous le thème « Ensemble pour la paix, respect, dignité et sécurité pour tous ». En RDC, la mission onusienne célèbre cette journée alors que les foyers de tension se multiplient dans le pays. Abdourahmane Dia a d'abord demandé à Charles Bambara, directeur de communication de la MONUSCO, de donner les derniers détails des incidents de Kamanyola dans l'est de la RDC, où des dizaines de réfugiés ont été tués vendredi dernier.
Nous avons à l'heure actuelle sur le terrain une équipe d'enquêteurs qui sont en train de rétablir exactement les différentes séquences de ce qui s'est passé à Kamanyola. Il faut dire que très exactement, 36 réfugiés burundais ont été tués, plus un officier congolais. Mais en tout, lors de des incidents, de ce massacre, parce qu'il faut l'appeler ainsi, il y a eu aussi 117 blessés dont la MONUSCO a pris en charge dès que nous étions sur le terrain. Nous avons transféré donc ces nombreux blessés jusqu'à tard dans la nuit d'ailleurs sur les hôpitaux non seulement de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, mais jusqu'à Goma également. Et nos équipes sur place ont pris en charge à Kamanyola même un certain nombre de blessés sur place avec le concours d'ailleurs du HCR qui a été déployé rapidement sur la place.
Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé?
Nous savons qu'il y a eu effectivement des heurts entre les forces de sécurité congolaises et ces populations burundaises réfugiées à Kamanyola. D'où est-ce que est parti exactement, j'allais dire, l'étincelle qui a fait enclencher cette violence? L'enquête nous le démontrera.
Alors, les autorités congolaises, en tout cas, disent qu'il y a eu des éléments armés parmi cette population de réfugiés. Est-ce que c'est une information dont vous disposez, que vous confirmez?
À l'heure actuelle, au moment où nous parlons, nous ne pouvons pas confirmer cette information. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que au regard du nombre de morts, au regard du nombre de blessés, il y a eu un usage que nous disons disproportionné de la force de la part des forces armées donc de sécurité congolaise. Et nous leur disons, et c'est un message que nous faisons passer régulièrement d'ailleurs, que au regard de la menace sur le terrain, la force doit être proportionnée à cette menace-là.
Ce jeudi est célébrée la journée internationale de la paix au moment où le pays dans lequel vous opérez connaît différents foyers de tension, notamment le Kasaï depuis presque un an et maintenant Kamanyola dernièrement. Comment est-ce que votre mission gère tout cela?
Depuis un certain temps, nous avons vu pratiquement se déplacer les foyers de tension de l'est de la RDC vers le centre de la RDC, dans la province du Kasaï. Nous avions juste une antenne de quelques hommes là-bas. Maintenant, nous sommes beaucoup plus présents, à la fois le contingent civil que le contingent militaire, pour aider justement à rétablir la paix, la sécurité et la stabilité dans cette zone. Tout n'est pas parfait, mais j'avoue que au regard des dernières informations que nous avons reçues de la force de la MONUSCO, il semble que dans les localités au moins, parce que nous ne pouvons pas être partout, où il y a la force de la MONUSCO, la population revient. Certaines écoles même ont réouvert dans cette zone du Kasaï.
Charles Bambara, directeur de communication de la MONUSCO en RDC.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le point sur l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Parmi les sujets épineux à l'agenda, l'impasse politique en RD Congo, les affrontements ethniques en Centrafrique, le terrorisme au Sahel, mais aussi la Corée du Nord et la réforme de l'ONU elle-même. Que peut attendre l'Afrique de ce rendez-vous diplomatique? Le projet de réforme de l'ONU affectera-t-il le continent? Y aura-t-il des solutions concrètes aux conflits et autres grands défis mondiaux? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Brazzaville est toujours dans l'attente d'une mission du FMI qui devrait aider le pays à mettre en place des réformes pour sortir de la crise économique. À marge de la 72e Assemblée générale de l'ONU à New York, le président congolais Denis Sassou Nguesso vient de rencontrer la directrice générale du FMI qui lui a assuré que son institution était disposée à aider le Congo. À Brazzaville, le FMI est attendu comme le messie, nous dit notre correspondant Nguela Ngusso.
En séjour à New York, à l'occasion de la 72e Assemblée générale de l'ONU, le président Sassou Nguesso a rencontré Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international. Il en ressort que l'institution de Bretton Woods reste déterminée à aider le Congo. À Brazzaville, l'attente d'une mission du FMI devient longue. Dans les administrations ou dans les entreprises, dans les arrêts des bus ou dans les débuts de boissons, on ne parle que de l'arrivée du FMI. Éric Patrick Mampouya.
Le FMI n'est pas une panacée, mais le FMI peut nous aider beaucoup à gouverner notre pays. Effectivement, les retraités ne sont plus payés, les fonctionnaires ne sont pas payés. On se demande bien pourquoi. Et pourtant, il y a de l'argent dans ce pays. Il y a de l'argent qui est caché quelque part et tout et tout. Et donc, on attend vraiment la décision du FMI. Si le FMI arrive et qu'il prenne des bonnes décisions, on pense que notre pays va retrouver un peu d'espoir.
Les attentes sont grandes, vu le niveau de pauvreté dans lequel les populations vivent actuellement. Augustin Benazo est un analyste économique.
Et je pense que les populations n'ont pas tort parce que notre gouvernement ne communique pas à la population pour leur dire quelles sont les mesures à prendre et rassurer un peu également les hommes d'affaires, rassurer les commerçants, rassurer les populations. Voilà. Donc c'est important que le gouvernement le fasse pour éviter que les gens puissent dire tout ce qu'ils peuvent avoir dans la tête et puis le balancer comme ça. Alors que nous sommes dans une situation où nous pensons que avec l'arrivée du FMI, l'appui du FMI, ça pourra s'améliorer.
La société civile estime que cette fois-ci, le FMI doit tenir compte de son point de vue. Pour Franck Nzila Malembe du mouvement Le Ras-le-Bol Citoyen, le FMI devrait associer leur voix à ces nouvelles discussions.
Nous avons dit au FMI qu'il n'est pas nécessaire d'aider un gouvernement qui n'arrive pas justement à établir des préalables, à mettre en place un certain nombre de réformes internes au Congo avant de recevoir ces milliards-là. Et donc c'est ce que nous disons au peuple congolais. Nous sommes d'accord avec ce peuple qui dit que FMI ou pas FMI, depuis 20 ans les choses ne changent pas.
Entre le FMI et le Congo, il y a cette histoire de dette cachée qui aurait atteint les 120% du produit intérieur brut. Interrogé ici au sein du gouvernement, on en parle. Voici la réponse de l'ancienne ministre du Commerce, Claudine Mounari.
Si l'Assemblée nationale n'a pas ces informations-là, comment voulez-vous que nous l'ayons? La dette est opaque, pas seulement pour le peuple congolais, la dette est opaque même pour certains membres du gouvernement. Dans ce pays, il y a une classification qui se fait, je ne sais comment, mais bon, il y a des choses qui se discutent ici et pas là. Et moi, je n'en sais rien.
Brazzaville reste suspendu à la mission du FMI que beaucoup attendent comme la venue du Messie. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville sur le 101.9 FM.
Un artiste a été arrêté samedi à Malabo en Guinée équatoriale pour blanchiment d'argent et usage de faux. Habitant au Paraguay, Ramon Zé Essono Ebalé était de retour au pays depuis 20 jours. Il encourt jusqu'à 40 ans d'emprisonnement. Sa famille et des ONG dénoncent un montage. L'artiste a notamment illustré en mai 2016 un roman très critique envers le régime du président Teodoro Obiang. Pour un éclairage, Claire Morin-Gibourg a joint à Malabo le journaliste Samuel Obiang.
Ça a été une surprise parce que j'ai été étonné pour ces motifs. J'essaie de chercher pourquoi il est arrêté. Je vais au ministère, à la police et à la gendarmerie. J'essaie de fouiller sur les listes. Il n'était pas enregistré comme personne détenue à ce niveau. En suivant les contacts, je suis tombé au niveau des membres de sa famille qui m'ont confirmé qu'il est toujours détenu à la police centrale de Malabo. C'est un activiste, c'est quelqu'un qui milite pour les droits de l'homme, pour la liberté d'expression. Si ça se confirmait qu'il est arrêté, qu'il est vraiment détenu pour son art, pour ses ouvrages ou ses œuvres, cela veut dire que le climat est vraiment délétère.
Est-ce que c'est le signe d'un durcissement du régime politique selon vous?
Je m'étonne ces derniers temps-ci pour des arrestations à cause de la liberté d'expression. Si lui, il est arrêté ou il est détenu maintenant, je pense qu'il y a de cela moins de 3 mois. Certains artistes ont été aussi interpellés pour leurs œuvres musicales parce qu'ils critiquent le régime, le gouvernement. quand la police les interpelle, ils ne leur notifient pas vraiment le motif pour lequel ils sont détenus. Mais au fond, on parvient souvent à soupçonner que c'est dû à leurs œuvres musicales où ils critiquent le gouvernement et l'Argile. C'est le vrai motif pour lequel ils sont détenus. Je ne comprends vraiment pas pourquoi cela arrive ces derniers temps. Il fut un temps, le climat était un peu calme, mais ces derniers temps, il y a une persécution des autorités policières envers de ce droit qui est le droit de la liberté d'expression.
Est-ce que vous pensez que c'est dû à l'approche des élections?
C'est difficile de confirmer pour l'instant si c'est dû à l'approche des élections, parce que les élections, il n'y a pas un enjeu capital sur les élections à venir, les législatives, les sénatoriales et les municipales. Si, à mon avis, connaissant bien la politique nationale, le parti au pouvoir est d'emblée, va remporter sans surprise, comme d'habitude. Ce que moi je note, c'est que les autorités policières, le régime, c'est une répression qui est souvent utilisée parce qu'on ne veut pas que certaines voix puissent révéler certains abus commis par les autorités.
Le journaliste Samuel Obiang à Malabo.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les efforts se poursuivent au Mexique dans l'espoir de retrouver sous les décombres des survivants du séisme de mardi. Chaque minute compte, a déclaré mercredi le président mexicain Enrique Peña Nieto. Timothée Donang Maya joint à Mexico l'écrivain tchadien Kulsi Lamco, vice-recteur chargé de la culture et de l'extension universitaire à l'Université autonome du Mexique.
On était en pleine répétition pour pouvoir réagir au cas où il y aurait un tremblement de terre. C'était les commémorations du tremblement de terre de 85. Donc à 11h, il y a eu le simulacre. On est tous sortis et puis par la suite, on a réintégré nos bureaux. Et ce qui est terrible, c'est que après le simulacre, pratiquement 2 heures après le simulacre, la vérité du tremblement de terre s'est avérée. Heureusement d'ailleurs, finalement, qu'on a pu, avec le simulacre, nous rendre compte de ce qu'il fallait sortir très rapidement des édifices. Et ça n'a pas été facile de voir se rendre compte qu'on ne pouvait plus avoir pied sur le sol et surtout d'imaginer que ces immeubles-là, qui ont été construits dans des zones qui sont parfois très, très fragiles, hein, peuvent tomber. C'est cette situation que personnellement j'ai vécue.
Comment les Mexicains ont réagi à cette situation?
Je pense que les Mexicains ont réussi à avoir une culture de l'urgence, en fait, et des séismes même. Les brigades se forment très, très rapidement. De toute façon, même au niveau de l'État, il y a dans chaque ministère des brigades préparées pour réagir en cas d'urgence. Mais dans ce cas précis-là, la société civile s'est vraiment mobilisée. Des jeunes dont on pensait qu'ils n'avaient plus de sens communautaire sont ceux qui organisaient pratiquement la circulation, sont ceux qui couraient pour aller aider à enlever les gens des décombres. Ce sont aussi ces jeunes-là qui, très vite, comme ça, ont réussi à mettre en place des centres qui permettent de recueillir de l'eau, de la nourriture, du matériel, de travail, etc.
À quoi se résume la vie quotidienne dans la capitale mexicaine après ce séisme?
Il y a un ordre qui a été donné pour qu'il n'y ait pas de circulation permanente. Les écoles sont fermées, les universités également, le personnel administratif des universités. La mobilisation continue parce que ce n'est pas fini. On se rend bien compte qu'il y a des immeubles qui ont été touchés, qui ne sont pas tombés et qui actuellement causent encore beaucoup d'anxiété. Et comme il y a tout un service qui passe pour examiner chaque bâtiment avant que on ne puisse le réintégrer. Voilà, les hôpitaux, c'est la même chose. Parfois, on s'est retrouvé avec des malades qui ont été transférés sur d'autres espaces pour être reçus. Donc, la vie n'a pas du tout repris comme telle.
L'écrivain tchadien Kulsi Lamco, vice-recteur à l'Université autonome du Mexique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise à nom de par Anne Alberson. Zeynab Abderrahmane était à la console. Présentation John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VOA Afrique et sur voafrique.com. Excellente journée à toutes et à tous.